politique.
La décision qui a été prise par le ministère, c'est une décision que j'ai personnellement autorisée à la lumière des informations que j'ai recueillies, à la lumière des questions que j'ai posées.
Moi, je n'ai pas à commenter.
Généralement, lanceur d'alerte.
Quand ils sont témoins de pratiques qui peuvent être néfastes pour la santé publique, bien, c'est de poser des gestes qui ont des possibilités de mettre fin à ces pratiques-là. Là. Ça, c'est sûr que je vais encourager les gens de faire ça.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'est le ministre de l'Agriculture, la Montagne, que vous venez d'entendre, c'est ça, il l'a foutu à la porte, puis il est bien content de ça. Lui-là, là, c'est sa décision, puis c'est comme ça. Paul Journet, éditorialiste à la presse, Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, mon Paul, qu'est-ce que t'en penses de notre ministre de l'Agriculture?
Ben, il y a différentes théories. Soit qu'il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait une ingérence des lobbies dans les décisions, ou soit que c'est plutôt un ministre de type étampe, où on lui met quelque chose sur son bureau, puis il est très content d'y ajouter l'étampe ministérielle, puis le dossier est réglé. Mais dans tous les cas, il n'y a pas l'air de... C'est comme si il y a un fonctionnaire là, qui montre du doigt un problème hyper préoccupant, puis là, tu as la machine publique qui dit « Wow, 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 le règlement vous empêche de lever le doigt comme ça », puis le ministre, il dit « Ah, c'est vrai, la critique correspond au règlement, congédié. » On peut-tu avoir...
C'est ça que je comprends pas dans cette affaire-là. L'agronome en question, là, Louis Robert,
oui.
Il est pas. C'est pas un sous-ministre, là. Comment ça se fait que ça monte sur le bureau du ministre, cette demande de congédiement-là?
Ça, c'est une excellente question.
Bien, on peut rappeler les faits. Donc, il y a un reportage de Radio-Canada en mars 2018 qui fait état d'un rapport au ministère super inquiétant. Il y a un groupe de recherche sur les grains. On apprend dans cette note-là que le groupe de recherche est noyauté par l'industrie. Donc, les gens qui sont censés faire la recherche sur les grains, ils sont contrôlés en partie par du monde qui produisent les grains et les pesticides. Ça alarme pas mal de monde. Il y a au moins 7 démissions de chercheurs et le ministère s'en inquiète. Il y a quelqu'un qui transmet la note du ministère aux journalistes parce qu'il voit que même s'il y a un rapport, le ministre fait rien. Puis on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, même s'il y a des démissions. Puis l'industrie est en train de s'ingérer dans la recherche, il n'y a pas de problème. Fait qu'il y a un agronome qui sonne l'alarme, qui envoie ça à un journaliste et quelle a été la réaction du ministère de l'Agriculture. Mais en septembre dernier, il déclenche une enquête. L'enquête arrive à sa conclusion.
Oui.
Le fonctionnaire lui-même, là, il se cache pas, il dit « ben oui, c'est moi qui a sonné l'alarme
ben ». Oui, ben oui.
Puis il dit dans un premier temps « j'ai alerté le ministère, c'est parce que le ministère faisait rien que je suis allé parler aux journalistes ». L'enquête administrative conclut qu'il a violé la politique de médiatique parce qu'il a parlé aux médias, puis il a fait couler un document, donc bang, congédié pour avoir essayé d'alerter le public à un problème. Le problème, lui, évidemment, on fera pas grand-chose pour le régler.
Au niveau politique, là, toutes ces actions-là, c'est-à-dire l'ingérence des lobbies, l'information qui est transmise, ça s'est déroulé sous le gouvernement libéral. Alors, au niveau politique, pourquoi le ministre caquiste, dans le fond, entérine ce que le gouvernement libéral faisait et il se met dans une situation, je dois dire, là, un peu inconfortable et un signal qui est envoyé aux fonctionnaires de la fermer? Pourquoi ils font ça?
Le ministre dit qu'il y a des détails sur l'enquête qu'on connaît pas. J'ai bien hâte de voir c'est quoi, parce que moi, j'ai fouillé cette histoire-là à la suite du reportage, évidemment, de Thomas Gerbin il y a quelques mois. Puis, pour résumer brièvement là, le problème de fond, on a parlé de l'ingérence de l'industrie, mais c'est un débat sur quoi? C'est un débat sur l'utilisation de pesticides. Dans les années 90, on avait des cibles, on disait qu'on voulait réduire de moitié notre utilisation de pesticides. Finalement, on ne l'a jamais fait. Au contraire, l'utilisation de pesticides continue à augmenter année après année. Et il y a des chercheurs qui commencent à dire, non seulement il y a des effets nocifs associés aux pesticides, mais les bienfaits qu'on leur prête sont peut-être pas aussi grands qu'on le prétend.
Mais c'était ça,
et
la
c'est
conclusion.
De ces recherches-là dont il était question.
Oui.
Et le président du conseil d'administration du groupe de recherche a dit non, les pesticides, ça fonctionne bien, puis il a dit laissez faire. Puis,
en passant, le président du centre de recherche, c'est le président de la Fédération des
producteurs
de grains.
Monsieur Overbeck. Et c'est pas la première histoire non plus qu'on entend de pression exercée sur les agronomes. D'ailleurs, ce matin, au micro de Paul Arcand, il y avait un agronome à la retraite, André Carrier, et on lui a demandé s'il avait déjà vécu un malaise avec le ministère de l'Agriculture.
Plusieurs reprises. quand ma carrière s'est terminée en 2014, j'ai commencé à faire des conférences sur le Roundup. Fait que moi, j'avais intitulé une de mes conférences le glyphosate pas si inoffensif que ça. Et quand je me suis mis à commencer à m'annoncer pour faire ces conférences-là, mes patrons m'ont sérieusement averti de pas dire n'importe quoi, tiens-toi-en au fait. Puis pas longtemps après, j'ai eu un téléphone du cabinet du ministre, à l'époque c'était M. Paradis. Vous ne devez parler à aucun journaliste, tenez-vous-en au fait, on vous surveille.
C'est ça, mais là... Puis, voilà, c'est parce que là, la loi là, qui est supposée protéger les lanceurs d'alerte, là, elle sert à quoi, la sacrée loi?
Dans le cas de l'agronome congédié, ouais. À rien.
Ben, c'est ça.
Qu'est-ce qu'elle dit, la loi adoptée en vigueur depuis 2017? Elle dit qu'un dénonciateur là, peut sonner l'alarme à l'interne ou auprès de la protectrice du citoyen.
Mais surtout, va pas parler à un journaliste.
Si tu peux pas parler aux journalistes.
Tu peux parler au public, donc on entend par extension aux journalistes, s'il y a un risque grave pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
Ben, sais-tu quoi?
Moi,
je pense qu'en vertu de ces critères-là, il y avait le droit de parler aux médias.
Ben, ils contestent aussi.
Ben, avec raison.
Le syndicat va aller au bat, c'est certain.
C'est sûr, on l'avait hier dans le show.
Mais à l'avance, avant, il faut que tu ailles voir l'UPAC ou la police, si j'ai bien compris. Donc, c'est une loi qui est assez jeune. Elle a pas souvent été testée. Ouais. Moi, j'ai fait des appels ce matin pour essayer de comprendre là, comment elle pourrait s'appliquer ou non. Mais écoute, venant le gouvernement caquiste, là, eux qui, quand ils étaient dans l'opposition, ils étaient tellement toujours en train de dire qu'on avait besoin de façon urgente d'une loi pour protéger les dénonciateurs. Ils pourraient dire que si monsieur a été congédié parce que la loi n'est pas assez forte, ben qu'il change la loi.
Ben c'est ça.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense... gardons ça simple, tu as un problème d'intérêt public... T'as un gouvernement puis une fonction publique qui fait rien. T'as quelqu'un qui sonne l'alarme, puis c'est la personne qui sonne l'alarme qui est punie. Écoute, si c'était conforme aux lois, changeons les lois. Mais tu sais, à sa face même, là, le problème, il est assez simple. Là.
Voilà. Écoute, ça, c'est une clip à garder, ça. Tu m'as ramassé ça en 13 secondes, mon Paul. C'est parfait. Bon, Carl, parlons un petit peu de politique fédérale, parce que là, il y a un gros sondage Main Street qui est sorti. Et m'a dire Trudeau, c'est serré là. Il est mieux de travailler fort parce que sa réélection n'est pas assurée là.
Non, ça c'est pas assuré, c'est sûr. Le sondage Main Street dont tu parles, il démontre que ça se resserre entre les libéraux et les conservateurs. 37% pour le Parti libéral, 35% pour le Parti conservateur. Le NPD est très loin derrière à 11%.
Catastrophe pour eux autres.
Et oui, absolument. Et ça confirme un sondage Nanos qui est sorti hier, qui mettait les libéraux à 38 et les conservateurs à 37. Donc, ça se resserre. Le problème, faut aller voir plus loin que le chiffre national,
oui.
C'est la division du vote dans les régions, comment ça se déroule dans les différentes provinces. Le vote conservateur, présentement, n'est pas efficace. On est concentré dans certaines provinces comme les prairies, dans les régions rurales, mais lorsqu'on arrive dans les territoires urbains, le Parti libéral est devant. Et au Québec, le sondage Main Street là met le Parti libéral à 42% d'appui, loin devant tout le monde, les conservateurs à 19%, le Bloc à 13% et le NPD à 9%. Donc, une division du vote d'opposition au Québec qui fait que les libéraux pourraient faire des gains, avoir plus de sièges, ce qui pourrait compenser toutes les pertes qu'il pourrait avoir ailleurs au pays, notamment dans les provinces atlantiques et dans les provinces de l'Ouest.
L'Ouest va être content.
Comment tu dis?
L'Ouest va être content. Ils vont dire « Thank you, Québec ».
Mais là, je veux dire, c'est ce qui est fascinant, là, Carl, c'est t'as vu l'appui de Justin Trudeau chez les femmes, alors que Scheer est numéro un chez les hommes. Justin, c'est les femmes, en fait. S'il est réélu, ça va être grâce aux femmes.
Il y a toujours eu une grande proportion de l'électorat féminin qui était plus en faveur de Justin Trudeau. Ça, c'est vrai depuis son arrivée à la tête du Parti libéral, mais ça se confirme évidemment présentement avec ce sondage-là. Il faudra que les conservateurs fassent des gains à ce niveau-là. Il faudra qu'il y ait des politiques là. Puis ils en ont eu dans le passé. Hein? Toutes les politiques, les crédits d'impôt qui visaient les familles, les soccer moms, comme on dit, les parents qui... Donc, tous ces crédits boutiques, ça fonctionnait auprès des femmes. Mais pour l'instant, la rhétorique utilisé par les conservateurs, ça rebute les femmes beaucoup et c'est un problème pour le Parti conservateur.
Alors tu fais quoi, là? T'as une trente, là. Faut que tu conseilles Scheer. Parce que son problème au Québec, là, Scheer, c'est que, qu'est-ce que tu veux, il pogne pas, le pauvre. Il est en dessous de 20% alors que Trudeau est au-dessus de 40%. Puis, je veux dire, s'il fallait que Scheer commence à monter un peu au Québec, là, ce qui présumément ferait descendre Trudeau, je vais te dire, ça pourrait être une élection très, très serrée. Alors, on fait quoi? Mettons, t'es conservateur, tu fais quoi avec Scheer au Québec, toi?
Ben moi, je me continue de me positionner comme étant l'opposition principale au Parti libéral. Et je continue de faire le travail que j'ai fait en frappant sur des thèmes qui sont clés au Parti conservateur. Ce qu'on voit au Québec, la chose que j'ai remarqué dans le Main Street, c'est qu'auparavant, le Parti libéral avait une bonne avance, oui, mais les trois autres partis étaient nez à nez, autour de 15%. Or, le Parti conservateur commence à se détacher des deux autres, puis on peut se le dire, le Bloc québécois est toujours désorganisé, le NPD, ça va nulle part. Donc, si le Parti conservateur peut faire le plein du vote anti-libéral, il y a des chances de remporter plus que les 11 sièges qu'ils ont eu la dernière fois. Et l'autre indicateur qui est très positif pour le Parti conservateur, c'est la levée de fonds. Le financement...
Ah, ils ont de l'argent! Ça marche au bout!
Financement record pour les conservateurs. Dans l'année 2018, là, hein, ils ont accumulé 24 millions de dollars en dons. C'est quelque chose, ça, là.
Mais là, ils peuvent peut-être en dépenser un peu pour essayer de faire monter le taux de notoriété et d'amour des Québécois envers Scheer. Moi, il me semble que je suis un stratège conservateur. Je dis, garde, là, c'est le Québec qui va faire réélire Trudeau. Faut diminuer son avance au Québec. Mettons le paquet au Québec pour faire aimer Scheer au Québec, non?
En partie, mais ils comptent aussi sur l'équipe. La stratégie des conservateurs, ils vont piger dans le municipal, des conseillers municipaux, des maires. C'est le genre de candidature qu'ils recherchent pour pouvoir compter sur leur popularité personnelle et augmenter la capacité du Parti conservateur chercher des sièges au Québec.
Et mettre de l'avant certains députés qu'on connaît mieux, comme Gérard Deltel, Raïs est de plus en plus connu. Donc, absolument, mettre de l'avant l'équipe. OK, Carl Bélanger, l'équipe. Je te remercie.
Salut.
Salut, à demain. Paul Journet.
Merci.
À demain.
À demain. Hein?
On lâche pas après les informations, deuxième heure.